On fête cette semaine le 100e épisode du podcast, les films cultes des membres de l'équipe et nos plus grosses attentes seront au programme de cet épisode spécial, séance tenante saison 3, épisode 12, mais surtout 100e épisode en tout, c'est parti. Bonjour à tous.
Bonjour.
Salut. L'équipe.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va et toi?
Bah ça va super bien, c'est le 100e épisode.
Ouais. Eh oui.
Ah là là,
t'as vu
la foule en liesse. Alors oui, ce qu'il faut savoir c'est que Gaël porte actuellement un petit chapeau de fête et que nous avons moult accessoires
ramenés par Thomas
notre ingénieur son, voilà. notre réalisateur voilà, pour permettre de petites... Attention, regardez, je vais envoyer une petite boule comme dans les mariages sur Robin. Attention Robin, prépare-toi. Et voilà, en plein dans
celle-là,
ça.
Celle-là elle est pas très forte par rapport à ce que tu faisais avant.
Tout à fait, en répétition, j'y allais un petit peu plus fort, mais là je ne veux pas le blesser alors que l'épisode vient juste de commencer. Bonjour à vous trois, bonjour Gaël.
Salut.
Bonjour Robin.
Et bonjour.
Et bonjour Lisa.
Salut.
Tout le monde va bien?
Ouais. Impeccable.
Vous êtes prêts? 100e épisode,
ouais,
déjà.
Ouais. Qui le cru?
C'est ouf.
Qui le cru déjà, en effet. Premièrement, et que le temps passe.
C'est vrai.
Oh là là.
Je nous vois déjà dans le premier studio.
C'est vrai que nous avons constamment changé d'endroit pour enregistrer. Ça fait un moment qu'on est sédentaire maintenant dans les bureaux de Pathé. Mais c'est vrai qu'au début, nous n'enregistrons pas au même endroit. 100 épisodes, donc on reviendra sur les meilleurs moments du podcast, hein, ce qui vous a marqué, bien sûr, sur vos invités préférés. L'occasion d'aborder donc nos films préférés, parce qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant de se poser sur un épisode un peu sanctuarisé comme ça pour revenir sur les films un peu iconiques de chacun et surtout aussi pour se poser un peu sur l'avenir avec les films qui arriveront en 2024 et même plus loin sur nos plus grosses attentes. Quelques stats, parce que moi j'adore la data, j'adore ça, j'adore les stats.
T'énerve pas.
J'adore ça. Attention, petite boule sur Robin, vous êtes prêts? Attention. Hop là, il l'a esquivé, car c'est le micro qui a pris. Tout au long de l'épisode, hein, bien sûr, vous pourrez compter le nombre de
ça
boules envoyées
de Chavane,
sur ouais, c'est comparable, incroyable en tout cas. Donc séance tenante, c'est déjà 100 épisodes, dont 2 hors-série. Combien d'invités selon vous? C'est un petit jeu que je vous propose.
30.
75
non, non, ouais, moi je dirais 67.
Quoi, 67?
Ah, ça me fait beaucoup de mal, mais c'est Robin qui a raison, parce que nous sommes en effet à plus de 70 invités.
Wow.
Alors, 70 invités?
Sachant que s'il avait perdu, je lui aurais envoyé bien sûr une boule. Comme c'est Lisa qui a perdu, je ne me permettrai pas.
Allez.
Mais voilà. Plus de 70 invités depuis le premier épisode.
C'est incroyable.
Ce qui fait une moyenne de 0,7 invités par épisode.
On a un bras et une jambe.
Exactement. Bah, un peu plus quand même, parce que 0,7 d'un corps humain.
Avec des trucs, on a été chez les gens, tu te souviens?
On a été chez les gens.
Ouais, on a été chez les gens.
On a été chez
les gens. On a fait. J'irai dormir chez Mathieu Chédid.
Nous sommes en effet allés dans le studio de Mathieu Chédid d'enregistrer un épisode auquel Robin n'a pas assisté.
C'est dommage. Ouais, attends, mais ça mérite pas une boulette, ça?
C'est vrai qu'il aurait pu être à la chambre.
Alors, j'aime pas beaucoup la tournure de cet épisode.
C'est le 100e et le dernier épisode de Robin.
Est-ce qu'on n'est pas au bout d'un cycle, justement? C'est vrai que nous étions allés chez Mathieu Chédid, qui nous avait joué un morceau à la guitare de sa compo sur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Plus de 70 invités, mais alors, autre petit jeu, vous allez voir, déjà on parsemait cet épisode. Qui a fait le plus d'épisodes autour de la table? Car tout le monde n'a pas été là. Alors
toi,
moi,
toi,
oui,
dans ces cas-là.
Alors hormis moi,
Thomas,
qui a été le plus autour de la table selon vous?
Moi j'aurais dit Lisa.
Moi je pense que c'est moi.
Je pense que c'est toi, Gaël. Est-ce que tu penses que c'est toi?
Non.
D'accord.
Non. Je vois que t'as les chiffres. Hein.
Totalement les chiffres. Alors Lisa, tu penses avoir assisté à combien d'épisodes depuis le début du podcast? Sachant que donc là aujourd'hui nous enregistrons le 100e, 98 épisodes plus 2 hors-série. Nous sommes au 98e.
Ah oui, les hors-série, c'est vrai.
Tout à fait.
J'ai pas envie de dire un trop gros chiffre pour pas avoir trop d'ego non plus, tu vois.
Alors
mais
vraiment, c'est pas grave.
Oui, j'étais là tout le temps, moi, la bonne élève.
Au contraire, ça veut dire que tu as le plus de disponibilité.
Ouais, je suis là, celle qui le moins employée, en fait.
Tu pourrais prendre le truc dans l'autre sens.
85. Mais non.
Pas loin, tu es à 91 épisodes.
Ah ouais.
En deuxième place, nous avons Robin. Oh, et t'as combien d'épisodes selon toi? Je te laisse une marge d'erreur de 2 épisodes. Sinon, attention, la boule magique.
83.
Putain, c'était 84. Bravo. Yes. Wow. On n'aura pas la boule magique aujourd'hui. Et Gaël, combien d'épisodes selon toi?
75
72.
Ah, pas loin. Ça va, belle moyenne.
Ça va.
À noter Victor, qui nous avait donné de Pâté, qui travaille sur, aux réseaux sociaux à mes côtés, qui nous avait rejoint sur 4 épisodes qu'on salue.
Et vous voulez pas qu'on fasse un épisode spécial le jour où je ferai ma 100e? Du coup,
ça demande beaucoup d'organisation, mais oui, en soi, on peut
faire ça, non?
On peut prévoir ça, tout à fait. Mais on s'en reparle. Okay. On a un peu de marge, 72 épisodes. On en fasse quand même une petite trentaine avant ça. Mais oui, carrément, écoute, pourquoi pas. Le 100e épisode de Lisa arrivera très
ça,
rapidement.
Ça, là, c'est presque raccord. Quoi,
tout donc, à fait. Mais d'ailleurs, continuez à vous abonner sur les plateformes d'écoute, à mettre des petites notes, c'est toujours sympathique.
Je croyais qu'il y avait... Mais continuez à venir, s'il vous plaît.
Ça, il n'y a aucun doute, continuez à venir. Une saison 3 donc, que nous avons lancée début janvier avec une nouvelle formule un petit peu revisitée. Bon, on n'a pas non plus réinventé la roue, mais on a ajouté ces chroniques-là. C'est un exercice qui vous plaît? Vous avez le droit de dire que c'est insupportable à faire et insupportable à préparer surtout.
Non, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne plus de liberté. Ça nous permet de nous tester sur la préparation, l'écriture, le rythme, la manière de présenter en fait à l'oral mais un texte qu'on a un peu préparé à l'avance. Donc non, c'est un gros kiff. Et puis en plus, je trouve qu'à chaque fois, on arrive toujours à insérer des petites anecdotes perso, des clins d'œil à chacun. Donc ça donne du rythme, ouais, c'est bien.
Puis le format aussi qu'on a pu un peu tester sur le débat, sur un film de patrimoine qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est aussi un exercice intéressant.
Moi, j'aime bien les chroniques, moi. Je trouve que c'est vraiment c'est un exercice marrant. On se rôde encore, on tâtonne un peu, mais je trouve que c'est... Et puis surtout, ça permet de brasser des sujets un tout petit peu plus éloignés de l'actu.
Claude Brasseur
de l'actu, évidemment.
Pardon, excuse-moi d'avoir interrompu ça. Ce beau moment de partage et de... Tu te livrais.
C'est ça, excuse-moi. Je me mettais à nu et bon, voilà. Donc, voilà.
C'est super. En tout cas, une très belle fin de phrase.
Pierre Vernot.
Je reviens bientôt dans les meilleurs délais, si j'ai besoin d'une perche, en tout cas. Je sais que t'es là. Mais une saison 3, donc ponctuée d'une autre nouveauté, celle des épisodes réalisé en public. On vous le disait la semaine dernière, séance tenante en public, c'est une des nouveautés de cette année. C'est un rendez-vous donc qui reviendra, on pense, à peu près tous les 2 mois, au fur et à mesure de l'année, au Pâté Alésia, notamment à Paris. Donc un nouveau rendez-vous à retrouver régulièrement. Donc la projection d'un film en avant-première, suivi de l'enregistrement du podcast, en compagnie de l'équipe du film que les spectateurs viendront de voir, où du coup chaque spectateur pourra poser ses questions. La première édition de ce rendez-vous, c'est le mardi 2 avril au Pâté Alésia, donc avec Noulet Leroy. Et donc l'équipe du film, avec notamment Florent Bernard, qui sera à nos côtés. Et j'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que cette séance est officiellement complète.
Oh, trop bien!
Oh, quel quel engouement! La séance est en effet complète. Mais attendez, si vous n'avez pas pu réserver vos places, on a une petite solution pour vous. On vous fait gagner 2 places pour l'événement. Vous êtes fous, vous rendez compte? Le choc, on sent la stupéfaction autour des micros. On vous fait gagner 2 places, c'est très simple. Comment participer? Bien, c'est très simple. Pour participer et gagner ces 2 places à Séance Tenante Noulet Leroy au Pâté Alésia, eh bien, il suffit d'aller sur votre application de podcast préférée, là où vous écoutez Séance Tenante, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Vous mettez un petit avis gentil, vous mettez un petit 5 étoiles. Ça, c'est important. Hein. Comme l'a déjà fait Robin, comme l'a déjà fait Gaël, ainsi que Lisa et toute leur famille. D'ailleurs, c'est que ça, hein, les avis, hein, les avis de Séance Tenante sur toutes ces applis, c'est la famille de Robin étendue. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu le message de ton papa. Hop là, une boule de plus. Pardon. Donc voilà, pour participer, vous mettez un avis gentil, 5 étoiles avec votre identifiant, voilà. Et ensuite, vous nous l'envoyez sur Instagram au @patéfrance. Vous nous envoyez un petit message en disant que vous avez participé. Vous mettez l'identifiant que vous avez utilisé sur la plateforme en question. Et puis ensuite, on fera un petit tirage au sort pour vous faire gagner 2 places. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 29 mars. Donc n'hésitez pas à le faire dès maintenant. 5 étoiles, un petit avis gentil. Et puis l'opportunité de gagner 2 places et de venir rencontrer l'équipe le 2 avril au Pâté Alésia. Pour commencer cet épisode, qui est déjà bien entamé, on est à combien à peu près d'épisodes longtemps? On est déjà à 10 minutes, me dit Thomas. Merci beaucoup. Et j'aurais pu le noter, le savoir, puisque j'avais noté le début de l'épisode, et sachant que ça fait en effet 10 minutes, j'aurais pu le savoir, mais merci quand même. Revenons un peu sur les meilleurs moments, vous, ce qui vous a un peu marqué depuis... Bah depuis 100 épisodes que le temps file, ça fait presque 2 ans qu'on a lancé le format, c'était en mai 2022. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, que ce soit un enregistrement, une rencontre avec un invité? On parlait tout à l'heure de l'enregistrement chez Mathieu Chédid pour Astérix. Dites-nous.
Bah, puisque tu mentionnais les épisodes en live, forcément la première fois qu'on a pu tester le format et l'exercice à Lyon pour les Trois Mousquetaires, c'était quand même une belle soirée et justement l'occasion d'être avec du public lors d'un enregistrement, d'avoir cette énergie du public, du film projeté, de l'équipe évidemment. Donc ça, c'était quand même un beau souvenir.
Devant une salle quand même bien pleine. Alors malheureusement, on n'avait pas pu avoir des questions du public faute de temps, puisque ça s'inscrivait dans une grosse soirée d'avant-première pour l'équipe. Mais c'est vrai que c'était un exercice assez...
C'était la première fois qu'on testait un peu le truc, c'était agréable.
Et je crois qu'on ne l'a jamais dit, mais la version filmée de cette rencontre-là et de cet épisode du podcast est sur toutes les éditions vidéo de Trois Mousquetaires, D'Artagnan. C'est-à-dire que si vous achetez le DVD, le Blu-ray 4K ou que sais-je, de D'Artagnan, le premier des deux films, dans les bonus, vous aurez cet épisode de séance tenante. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous croisez un jour Gaël à la FNAC, hop, vous courez comme ça. Avec le Blu-ray, vous le faites dédicacer. Ce que tu feras volontiers.
Bien sûr, mais moi j'ai toujours un stylo pour mes fans.
Voilà. Et bien sûr, les purs fans, tels des pierres de l'infini, pourront essayer de collecter les 4 signatures de l'équipe.
Avengers.
Exactement. Les Avengers du pauvre, en tout cas. Un autre souvenir qui vous aurait marqué
on est revenu peut-être souvent dessus, mais c'est Nicolas Bolduc, le directeur de la photographie des Trois Mousquetaires. Je trouvais qu'il y avait... Alors déjà, non seulement découvrir le métier de directeur de la photo, mais en plus de ça, il y avait quelque chose chez lui, il avait du peps, il avait quelque chose de rythmé, de drôle, et en même temps, il te parlait d'anecdotes de films, il te parlait de comment ils ont mis en place telle lumière sur telle scène. Enfin, c'était hyper intéressant, et beaucoup de drôlerie et beaucoup de connaissances, en fait, et ça a été hyper étonnant. Invité comme ça, en fait.
Ce qui était super avec lui, c'était aussi, comme tu le dis, de pouvoir aller à la rencontre de chefs de poste, d'artisans du cinéma qu'on n'avait pas l'occasion d'entendre, que ce soit dans le podcast ou ailleurs. Et on l'avait fait sur Les Mousquetaires, on l'avait fait sur Astérix aussi, où on avait rencontré à chaque fois, on avait rencontré des producteurs, créatrices des costumes. Elle nous avait repris, d'ailleurs. Créatrice des costumes, on avait rencontré le compositeur, donc Mathieu Chédid pour Astérix, directeur de la photo. Qu'est-ce que nous avions et donc directeur de la photo et puis réalisateur évidemment, acteur et compagnie.
J'allais dire un peu plus généralement, je trouve que toutes les interviews qu'on a pu faire sont assez géniales parce que les gens ont le temps de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas dans les junkets ou dans les rencontres telles qu'elles sont organisées pour les promos des films. Et je trouve que là, il y a vraiment... J'ai l'impression qu'on arrive, c'est pas pour nous jeter des fleurs, qu'on pourrait le faire, mais j'ai mon chapeau qui tourne.
Ah là, le chapeau de Gaël
qui petit à petit glissé.
C'est ça. Les aléas du direct.
Je trouve que les gens sont en confiance, en fait, et disent des choses qu'on n'a pas l'habitude de les entendre dire ailleurs. Et je trouve que c'est, enfin, même à titre personnel, c'est toujours très intéressant, quoi. Les rencontres qu'on a pu faire au cours du podcast sont vraiment hyper intéressantes. Et puis sinon, moi, je retiens surtout Annecy, quoi. Le festival d'Annecy, où ça, c'était vraiment, vraiment cool parce qu'on était vraiment ensemble et qu'on se baladait à travers tout le festival pour soit faire des interviews, soit enregistrer le podcast. Il y avait vraiment un truc... Il y avait vraiment un truc collectif qui était sympa là-bas.
Quand on se baladait, quand Gaël n'avait pas sa horde de fans, bien
c'est
sûr,
ça,
bloquait
c'est ça,
la
c'est
sortie
ça.
Des
ou
salles.
Ou mon fils.
Ou son fils,
bien entendu. Le festival d'animation d'Annecy, dans lequel on se retrouvera, d'ailleurs, une nouvelle fois cette année, pour un épisode spécial et pour peut-être d'autres petites surprises, mais on vous en reparlera bien assez tôt. Mais oui, beaucoup d'invités, on l'a dit, plus de 70. Des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des réalisatrices, des producteurs, des... Lisa.
Non,
et Lisa, bien sûr, aussi, et qui était là.
Évidemment.
Donc, je le rappelle, 91 épisodes.
Grosse invitée récurrente. Non, ce que tu disais sur les invités aussi, je trouve que sur les derniers épisodes aussi, on a eu un palmarès quand même assez dingue. On a eu Monia Chokri, on a eu Jean-Jacques Hano, mais tu vois, par rapport au César, on a eu Monia Chokri, il y a Jeannery qui était venu avec Élodie Bouchèze, on a eu aussi Arié Vosalter.
Exactement.
Enfin, voilà, je trouve qu'on a eu quand même des.
Tu veux dire que nous sommes un peu le Nosferatu du cinéma français?
Un petit peu.
Si tu passes ici, tu as.
météo.
Tu fais la météo et le beau temps ici français.
Non, mais c'est pas ça. Mais c'est intéressant de. On les avait eu forcément après, avant leur prix. Mais du coup, c'est intéressant de se dire qu'on a eu ce genre de conversation et des conversations, comme tu dis, Gaëlle, approfondies où on a pris le temps. Avec des artistes qui sont maintenant encore reconnus et c'est hyper plaisant.
Écoute bien ça, Christopher Nolan, qui n'avait pas voulu venir dans le podcast.
C'est ça.
Et voilà, regarde, résultat des courses.
Résultat, tu n'as rien eu.
Alors, au César, il a rien eu.
Enfin, je vois un petit César d'honneur quand même.
Il a eu César d'honneur, ouais, c'est vrai.
Laisse tomber.
D'une certaine façon, bref. De nombreux invités donc, de nombreux sujets. On se redit dans 100 épisodes encore, hein. Puis on se refait un petit point. On se fait un point tous les 100 épisodes. Ça vous va ? Très bien. Donc, si mes calculs sont bons, on sera un peu plus. Qu'est-ce que je raconte ? Non, le 20 mars, on sera quoi dans 100 épisodes ? On sera en février ? Février ? Non, on sera deux mois avant, janvier ? Ouah, je sais pas où je vais avec cette phrase, mais en tout cas,
janvier 2026.
Janvier 2026.
Et, ah oui, oui.
Rendez-vous,
c'est demain.
Vous mettez ça dans la chambre ?
C'est demain.
Allez. janvier 2026. Qu'est-ce que vous faites en janvier 2026 ?
Ah bah, moi, je suis là à la centième.
Ouais, la 200e en l'occurrence.
Ouais, 200e, pardon.
Sauf s'il y a plein d'hors séries. Ouais. Là, ça raccourcit évidemment.
Janvier 2026 ? Avatar ne sera toujours pas sorti ou...
Avatar, alors si, attendez. Théoriquement, bah, si, Avatar 3 sorti. Sort en décembre.
Ah ouais, donc
c'est un spécial.
Ça, c'est pas mal, spécial Avatar 3. Compagnie de James Cameron, ouais. On l'espère. En tout cas,
lui,
un César.
César, voilà.
César. Par la force des choses, il devra être là. Et qui dit centième épisode, dit épisode spécial donc. Et qu'est-ce qu'il y a de plus, comment dire, de plus symptomatique d'un épisode un peu sympa du podcast ? Un blind test. Un jeu, un blind test. Ça, c'est longtemps qu'on n'en avait pas fait. Je vous propose aujourd'hui un blind test de films qui sont sortis exclusivement depuis que nous avons sorti notre premier épisode du podcast. Okay. Et ce sont des films qui ont à chaque fois un petit peu marqué le podcast, qui sont souvent revenus. Bref, on pourrait déjà les citer, mais on va pas le faire, on va attendre que les musiques partent. Et je vous propose de retrouver chacun de ces thèmes, chacun de ces films. Il y a un petit système de points, bien sûr.
Il y a Barbie.
Ah, mais tu verras.
Il y a Oppenheimer. Anatomie d'une chute.
Avatar. On peut laisser parler ou pas ?
J'ai gagné.
Il a tout trouvé. 8 points déjà pour Gaël, bravo. Et puis à chaque film, on s'arrêtera peut-être justement pour discuter une petite minute du film en question et de pourquoi il nous a marqué, dans le podcast en particulier, mais aussi de manière générale. Je vous propose donc un premier extrait tout de suite.
Attends, t'as 10 items de points.
On s'en fout.
Game of Thrones.
Eh oui, non. Les trois mousquetaires, bravo.
Non, pardon.
Elle est beaucoup trop dans le jeu, Lisa. Les trois mousquetaires d'Artagnan, tout à fait. Une musique de... Vous l'avez...
Bruno Coulet.
Pas du tout, Guillaume Roussel.
Guillaume Roussel.
C'est un vrai nom que tu viens nous citer ?
Bruno Coulet, bien sûr.
Bruno Coulet, très bien. Eh bien, on le salue. Générique d'Artagnan, c'est la musique qui marque la fin de ce premier opus des mousquetaires d'Artagnan. Donc... On l'a dit tout à l'heure, un film qui nous a beaucoup accompagnés sur l'année, notamment grâce au podcast en public, notamment grâce à tous ces épisodes. Maintenant que les deux films sont sortis, vous en gardez quoi dans votre esprit de ce diptyque des mousquetaires qui a quand même pas mal marqué l'année 2023 ?
Bah déjà, l'envie d'avoir une suite.
Ah oui, c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Oh, ça spoil.
Ça va.
Ah non, ah, j'ai voulu souffler, j'avais pas de billes, mon canon n'était pas chargé. C'est bon, je te l'offre.
Voilà, j'ai envie quand même d'avoir une suite et de surtout de pouvoir continuer un peu cette fresque épique avec ces personnages qu'on commence à connaître de plus en plus, qui sont bien installés dans un univers justement qui est de plus en plus large. Donc je pense que c'est ça qui me reste principalement, c'est cette envie de continuer à les suivre, de pas les quitter justement. Et après, par rapport à ça, évidemment, là, toute la richesse du film, on en a parlé plusieurs fois, des deux films, au niveau du travail de la reconstitution, des acteurs, de l'écriture, je trouve qu'on a vraiment eu un souffle épique dès le début du premier film jusqu'à la conclusion du deuxième.
Et puis, on reviendra sûrement là-dessus quand on parlera de nos attentes, mais c'est aussi pour ça que moi j'attends beaucoup Monte Cristo.
Bien sûr,
ouais. Parce qu'on est dans le même esprit. Alors, on est toujours chez Dumas, on n'est pas forcément avec le même réalisateur, mais les deux réalisateurs, Alexandre Delaporte et Mathieu de la Patellière, qui ont écrit D'Artagnan, ont écrit et réalisé Monte Cristo. Mais si je voulais passer aussi cet extrait, dis-moi.
C'est le contraire. C'est Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière.
Absolument, mais je sais très bien, puisque ce sont les parrains du podcast. Et justement, je voulais revenir là-dessus. Pourquoi aussi également ? Car ils sont les parrains du podcast.
C'est vrai.
Ce sont les premiers invités que nous avons eu dans cet épisode, que j'allais dire zéro. Il n'y a pas vraiment eu de pilote, mais on pourrait considérer que c'est le pilote que nous avions reçu. C'était l'enregistrement, je crois, en mars 2022, ou début avril.
C'est vrai.
Pour une diffusion le 10 mai 2022. Ouais. Nous avions reçu Alexandre Delaporte et Mathieu de la Patellière, qui à l'époque
parlait déjà du compte de
déjà à Monte Cristo, qui nous parlait des mousquetaires, donc, qui étaient, je ne sais plus dans quel stade le film était, quand on les avait reçus.
C'était en tournage.
Toujours en tournage, ouais.
Tournage, fin de tournage.
Un beau souvenir, en tout cas.
Ouais, ouais. Moi, je retiens aussi Civil, parce que c'est quand même le moment où Civil s'impose en tant que vraie star, en tant que, en tout cas, leader potentiel et vraiment charismatique d'une franchise comme ça. Je trouve que ça, ça a été un gros truc. Et aussi Louis Garrel, qui faisait un roi.
Absolument.
Assez
magistral.
Génial. Donc, voilà.
Deuxième extrait, sans plus attendre, d'un film qui nous a marqué, qui a marqué l'année 2023.
Top Gun.
Top Gun.
22, oui. Pas le temps, en fait, de jouer.
Trop bien. C'est trop bien, cette musique.
Pas le temps de jouer. Top Gun Maverick, en effet.
Qui est arrivé très vite, hein.
Qui est arrivé très vite. Oui, puisqu'il est sorti, ouais, il est sorti en mai-juin 2022, ouais. Au moment où c'est... Ouais. Voilà. Et c'est justement le premier gros blockbuster qu'on avait abordé à l'époque, ouais. Tous ensemble. Je ne mets pas plus longtemps, car sinon on va se faire striker par Hans Zimmer. En tout cas, une musique donc de Harold Faltermeyer et Hans Zimmer. Main title, You've Been Called Back. Tout Top Gun, bien sûr, dans mon meilleur accent américain. Le premier grand blockbuster qu'on avait traité, un très grand blockbuster de manière générale de 2022.
Je trouve un blockbuster étonnamment, parce que c'est vrai qu'en y allant, je ne misais pas forcément dessus, en y allant, où j'ai pris mon pied, en fait. Où en fait, alors, c'est peut-être dans les conditions dans lesquelles on l'a vu, parce qu'on était dans une salle incroyable, mais...
Tu peux peut-être citer la salle dans laquelle on l'a vu.
La salle Beaugrenet,
oui, en Dolby Cinéma, Dolby, bien sûr, voilà.
Mais
petit instant quand même pour, ouais, pas, pour rappeler que c'est un podcast pâté. Ouais, ouais.
Non, mais il y avait quelque chose d'étonnant, en fait, en termes de rythme et en termes de comment faire une suite à un film des années 80 qui a, pour moi, mal vieilli quand même. Et en fait, je me suis laissée complètement emporter par... Qu'est-ce qui se passe?
Non, rien. Quelque chose, j'ai juste remis une petite boule dans...
Dans le...
Je sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs, ce truc...
Une sarbacane.
Une sarbacane, tout simplement. Voilà, il y a deux boules actuellement. Mais non, c'est juste que voilà, c'est au cas où. Ah non, pas du tout. Je ne me permettrai pas de te tirer dessus.
Ah ouais, faut souhaiter.
Je te parle de... Mais continue ton propos. Attends, je t'écoutais vraiment pleinement. Oh là là. On parlait de Top Gun.
Qui a mal vieilli. Et non, vraiment une grosse claque, en fait, de divertissement. En fait, c'est surtout ça. Et ça faisait, je pense, longtemps que je n'avais pas vu quelque chose où je m'étais juste laissée emporter en tant que spectatrice dans quelque chose. Ouais, de grandiloquent, avec certes un côté exagéré. Il y a la figure de Tom Cruise et ce que ça veut dire de ce qu'il représente aujourd'hui à Hollywood. Mais en même temps, il y avait une sorte de plaisir, et même pas plaisir coupable, en fait.
C'est l'acmé de Tom Cruise, d'ailleurs. C'est vraiment le sommet, lui, de la manière dont il s'est installé au top du blockbuster, justement. Je trouve qu'il y avait quelque chose en plus de très... sur le au niveau méta, comme on dit aujourd'hui, il y avait quelque chose d'assez passionnant dans la manière dont il creusait sa propre figure d'acteur et de mythe cinématique. Cinéma, quoi. Donc, je vois que je pourrais dire n'importe quoi, et vraiment, ce serait pareil.
Il y a une espèce de...
Attends, le regard, là, franchement...
Les mecs, ils sont dans un western, quoi.
Mort ou vif, quoi.
Attendez, ce qu'il faut préciser...
Il y a du hop.
Pendant que Lisa... Non, attendez. Pendant que Lisa et Gaël sont en train de faire un superbe laïus sur Top Gun Maverick, je viens de voir qu'une personne que je ne citerai pas, Thomas, venait d'offrir une sarbacane armée. Alors, je ne sais pas si elle est armée.
Oui.
Elle est armée à Robin, pardon. Et c'est vrai que du coup, le combat est peut-être un peu plus loyal. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'étais plus ou moins en train de rire, même si je m'intéresse bien entendu énormément à ce que vous dites sur... Où est-ce que vous aviez terminé d'ailleurs?
Oui, c'est fini.
Blablabla, Top Gun,
C'est quasiment ce que j'entendais pendant que j'étais sur mon sujet. On enchaîne donc avec un troisième film...
Est-ce qu'on attend pour faire la fête?
Oui, mais alors, de quel film parlons-nous? Parce que tu viens de dire un bout du titre du film.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et donc, c'est le sous-titre de quel film? Ah là là, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas.
Si, attends, film français.
En effet, une musique de Ludovic Bourse. Aïe, j'ai l'impression que c'est très compliqué. C'était peut-être le thème le plus compliqué que j'ai à vous proposer aujourd'hui.
Attends.
Bon, écoutez, on va peut-être arrêter la piste. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'était le sous-titre de quel film sorti en 2022? Eh bien, c'était Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Ah là 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 là, Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Une musique donc de Ludovic Bourse, le générique de fin que nous venons d'entendre. Et si je voulais proposer ici, c'était pour revenir peut-être en un mot, en effet, sur le Festival d'Animation d'Annecy. Alors, nous avions assisté à l'édition précédente, celle de 2023. En 2022, c'est Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, qui était reparti avec le prix suprême, le grand prix du Festival d'Animation d'Annecy. Un film qui, moi, m'avait beaucoup marqué et beaucoup ému sur Goscinny, sur Sempé, sur ce personnage du Petit Nicolas qui part à la rencontre de ses créateurs. Et inversement, Annecy, on l'a dit, 2023, première fois où nous étions tous ensemble au festival. On avait pu enregistrer un épisode hors série, on avait rencontré pas mal de monde, on avait rencontré le réalisateur de beaucoup de films, on avait notamment rencontré avec Robin Eric Goldberg.
Bien sûr, légende de Disney.
Oui, parce qu'on
n'a
pas cité tout à l'heure dans les grands noms qu'on avait rencontrés.
C'est vrai.
Mais il y a Eric Goldberg.
Quand même. Ouais, ouais. Et puis parmi les 78, tu dis
Non, je suis resté vague. J'ai dit plus de 70.
Plus de 70. Il y a eu quand même très très beaux noms. Et effectivement, à Annecy, on a pu rencontrer. Je trouve des personnalités très différentes dans le monde de l'animation et c'est ça qui fait la richesse un peu de ce festival.
Qu'est-ce qu'il y a, Gaël ?
Non, parce que tu replies la feuille.
Oui, il y a toutes les réponses.
J'étais en train de me dire que c'était vraiment que Le Petit Nicolas, c'était vraiment vraiment un très très beau film quoi. Là aussi, méta sur justement la créature, les créateurs. Et puis c'était très émouvant de voir le film après la disparition de Sempé aussi, qui était mort entre Annecy et la sortie du film. Et c'était, ouais, c'est vraiment, vraiment un très beau film.
Et on continue avec un quatrième extrait.
Avatar. La Voix de l'eau.
Oui, j'étais suspendu à ce titre, bien sûr.
Magnifique scène de fin, d'ailleurs.
Exactement, Avatar, La Voix de l'eau, The Spirit Tree. Une bande originale composée par Simon Franklin.
Fantastique.
Ah, c'est bien ça.
Fantastique. Et puis, un sacré défi pour lui parce qu'il passe quand même après James Horner, qui avait composé la musique du premier film.
Vraiment, qui était le compositeur de longue date.
Titré de James Cameron et compositeur d'exception. On a tous forcément des thèmes en tête de lui. Et il est très intéressant parce qu'il parle souvent sur les réseaux sociaux justement de ce que c'était pour lui de s'attaquer un peu au mythe Avatar déjà, mais de passer après James Horner et de comment il a réussi, enfin en tout cas comment il a essayé et je pense réussi, à lui rendre hommage en gardant le style Horner tout en s'appropriant pour ce nouveau film. Et là, le thème que t'as mis, c'est vraiment l'illustration parfaite de ça.
Robin, le seul journaliste en France capable de disserter pendant 10 minutes sur le mec qui a fait la musique d'Avatar 2.
Mais on est d'accord. Compositeur de légende.
Moi, excusez-moi, quand je repense à Avatar 2, je pense à la manière dont je suis sorti du pâté Beaugrenel.
Ah, parce que tu l'as vu en quel format, en
Dolby.
Cinéma.
Pardon, ouais, Dolby Cinéma. Et je me souviens, c'était en décembre, il pleuvait, un vendredi matin, il pleuvait, c'était l'enfer,
on avait vu Babylone.
Oui, on avait
vu Babylone. J'allais dire jeudi à la base, quoi qu'il en soit, c'était un jour de semaine, et je me souviens vraiment de sortir du film et de me dire « Ah non, mais en fait, je vais retourner tout de suite sur Pandora. » L'effet immersif était complètement fou. On se disait que c'était impossible qu'il fasse mieux, il étant non pas le compositeur, mais je vous vois avec vos trucs là.
Mais non, mais attends, on va pas refaire le coup du « On fait semblant de t'écouter ». Non, on l'a fait tout à l'heure. Qu'on fasse semblant de t'écouter, mais... Pardon.
On se disait que Cameron pouvait... C'était pas possible qu'il fasse mieux que le précédent.
C'est ce qu'on dit de Cameron à chaque fois.
Ouais, c'est vrai. Et à chaque fois, il nous corrige, on va dire. Donc, c'était
un grand succès de l'histoire du cinéma, un chef-d'œuvre absolu, et puis déjà un très bon film, un très grand succès, et puis une expérience en effet immersive absolument folle. La suite Avatar 3 devrait sortir logiquement en décembre 2025. Alors, pas loin de la 200e. Mais bon, je pense que quand on sera à 200e, on parlera peut-être encore d'Avatar, histoire vraiment de presser le citron, l'orange, enfin n'importe quel fruit, quel agrume, au final, jusqu'au bout. On passe tout de suite au cinquième extrait.
Forcément,
Babylone. Bien sûr.
Mais oui. Oui, tu parlais de Babylone à l'instant, Gaël. Robin. Hop, un petit coup de sarbacane. Pourquoi totalement gratuit? Ah, il a essayé de rattraper une boule. Car ce qu'il faut dire, c'est que Robin a une sarbacane, mais n'a pas les boules qui vont avec.
Je suis à court de munitions.
Ce qui est très dommageable pour lui. Bref, mais il faut les attraper en vol quand je t'en envoie. C'est ton petit jeu que je t'offre.
Petit jeu personnel.
Babylone, Voodoo Mama, un thème composé par Justin Hurwitz. Pour le chef-d'œuvre ultime.
Une musique d'ailleurs, pour lequel il n'a pas gagné l'Oscar.
Ah oui, alors ça, on le rappelle que le film qui avait remporté l'Oscar l'année dernière de la meilleure bande originale, c'était À l'Ouest, rien de nouveau. Bande originale, somme toute, sympathique, mais.
Oui, c'est pas tant le fait que lui la remporte,
tout à fait.
Mais que Babylone ne la remporte pas.
Ça, c'était absolument. Voilà.
Alors, en plus, c'est le thème du film. Donc
absolument scandaleux. Et encore, là, c'est un des thèmes du film. Oui, en plus. Non, pardon, je crois que tu parlais des thèmes. C'est un des thèmes du film, en effet. Moi, je parle du thème, le mot thème.
Le mot theme.
Mais ça, c'est entre musicaux, c'est un on se comprend, bien sûr. N'est-ce pas, Robin?
Bien sûr.
Merci, mon champion. Bref, Babylone, qui avait marqué en effet l'année. Moi, je me souviens qu'on avait découvert coup sur coup, en effet, l'année dernière, en 2022, on avait découvert. Ouais. Avatar, on avait découvert La Voix de l'eau. Arrête, c'était un terme impossible là. Vraiment, il vient de ramasser des boules par terre. Vous êtes vraiment des enfants.
C'est ça
quoi.
Là en plus.
Ça, on ne peut pas, on peut pas parler quoi. C'est fou, le centième épisode, ça
alors que moi
pas
je t'écoute en plus.
Mais bien sûr. On avait découvert coup sur coup Avatar, La Voix de l'eau, Babylone, et je crois que il n'y avait pas un troisième film. Je me souviens, on s'était fait la remarque que c'était incroyable de découvrir les Trois Mousquetaires d'Artagnan, je crois.
On l'avait vu avant ça. Je crois qu'on l'avait
avant
vu
décembre,
quelques semaines avant, genre deux semaines avant.
Mais non, en février, il est sorti en mars.
Ben oui. Je l'ai vu en février ? Mais non, attendez, on parle de décembre
2022.
Nous, on l'avait vu en février.
Ouais, toi, tu l'avais vu alors, mais nous, on l'avait peut-être
moi,
vu. Alors,
pardon. Moi, j'ai souvenir de trois vendredis de suite où j'avais vu vraiment trois films qui m'avaient profondément marqué.
On avait enchaîné Avatar et Babylone en deux jours.
Et sur Damien Chazelle, j'ai vu Blue Giant ce week-end.
J'en ai entendu parler.
Un film d'animation adapté d'un manga.
D'accord.
Qui d'ailleurs n'est plus beaucoup en salle. Je me faisais la réflexion à quel point c'est à la fois Whiplash et La La Land, et à quel point, et on l'avait dit quand on avait parlé de Babylone, à quel point ce type-là, Damien Chazelle, est un des cinéastes les plus influents de sa génération. Quoi.
Ce qui est tragique, c'est, j'imagine que vous avez vu sa dernière déclaration à la presse.
Oui, il dit était pas sûr.
En fait, il dit, après l'échec financier de Babylone, je suis pas sûr de... Enfin, je sais que mon prochain film ne pourra pas coûter aussi cher, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir... Alors non, il dit pas exactement, je sais pas quand est-ce que je pourrais faire un prochain film, il dit que quoi qu'il arrive, son prochain long métrage ne pourra
ça
pas avoir l'envergure.
Faire,
et ça sera beaucoup plus difficile d'avoir à nouveau un budget pareil, et surtout sur le prochain. Quoi.
Mais c'est incroyable quand tu te dis la qualité scénaristique et même d'écriture des personnages, même de photographie en fait, qu'il y a dans Babylone. Bon, de toute façon, c'est notre film coup de cœur de 2023, mais on ne va pas y revenir. Mais que ça n'ait pas marché ou que ça n'ait pas trouvé son public, en fait. C'est quand même assez dingue, sachant qu'en plus de ça...
Sauf en France,
en quelque sorte, quand tu te dis que La La Land a su le trouver, alors que c'est une comédie musicale, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas, donc j'espère que s'il reçoit un moment au ciné, ça va se précipiter et... Parce qu'il mérite en fait d'être vu, c'est un chef-d'œuvre.
Hein.
Enfin, un
que...
des meilleurs rôles de Brad Pitt pour moi aussi
on
depuis longtemps.
On espère que
en fait.
Damien Chazelle sortira de la Director's Jail, la prison des directeurs. Alors non pas qu'ils soient vraiment en prison, vous inquiétez pas, hein, mais dans le lore un peu, la Director's Jail, c'est l'endroit où les réalisateurs qui ont fait pas forcément des échecs se retrouvent un peu dans un stade où ils n'ont plus de projets en cours. On pense à Peter Jackson, on pense à Gore Verbinski, qui est plus ou moins en train d'en sortir.
Il commence à...
J'avais très peur que Gareth Edwards y soit emprisonné. Ouais. Alors, il a été annoncé à la réalisation du prochain Jurassic World, sachant que le film sort dans un an, ça paraît... ce projet m'inquiète un peu, mais je suis quand même très confiant, parce que pour l'instant, j'adore tous les films de Gareth Edwards, donc à voir ce qu'il pourra faire
puis
là-dessus.
Il passerait après Bayona. Et
aussi, donc...
il y a eu un... Colin Trevorrow, c'est ça ?
Oui. Il était revenu. Ouais.
Absolument.
Ouais.
Donc bref, écoutez, on espère que Damien Chazelle aura un projet très bientôt au cinéma et que nous aurons l'occasion d'en reparler peut-être dans le 200e épisode. Ah, peut-être que ce sera
avec lui.
Damien, s'il a un peu
français,
de temps. Le problème, c'est que quand les réalisateurs américains viennent en France, en général, c'est très difficile de les avoir un peu plus de 6 minutes. Bref, ce qui est un peu court pour un podcast. Surtout, tu parlais tout à l'heure du temps long et des interviews. C'est vrai que c'est clair. Un podcast, c'est quand même un peu complexe. Absolument. Sixième extrait, et avant-dernier déjà, sixième extrait.
Oppenheimer,
ouais.
Oui, Oppenheimer, une musique de Ludwig Göransson.
Qui a gagné cette fois-ci l'Oscar.
Il l'a eu, l'Oscar de la meilleure bande originale pour le film réalisé par Christopher Nolan. Oppenheimer qui a profondément marqué l'année 2023. On a envie
2024.
De l'écouter, j'ai envie de me taire et de l'écouter. Et de comment bah, et qui marque toutes les années au final. Ouais. Can You Hear the Music de la bande son donc de Oppenheimer, l'Oscar de la meilleure chanson et puis surtout le phénomène Oppenheimer
c'est
sorti cet été, l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur et j'en passe. On pourra faire la semaine prochaine un point justement sur les Oscars, mais là c'est vraiment un épisode sur le centième épisode, donc recadrons-nous. Je pourrais t'envoyer une boule de sarbacane si elle n'était pas exclusivement réservée à Robin aujourd'hui. Non, je m'y perds. De quoi on parlait ? D'Oppenheimer.
Phénomène, bien sûr.
L'été 2023, profondément marqué par la sortie d'Oppenheimer, mais aussi de Barbie. Alors, il n'y aura pas de musique de Barbie dans ce blind test, parce que je ne voulais pas faire deux films aussi collés l'un à l'autre. Même si, bon, Avatar et Babylone, ça se discute, et Top Gun et Trois Mousquetaires. Oh, puis, à un moment donné, laissez-moi tranquille.
C'est toi qui choisis.
Ah, lâchez-moi le col. c'est vrai aussi, accessoirement. Mais bref. Un phénomène fou, ce qui s'est passé l'été dernier, ce Barbieheimer, ce Open Barbie.
L'été global, parce que c'était fou d'avoir Indiana Jones, Mission Impossible. Enfin, il y avait une espèce de truc, on en a souvent parlé dans le podcast, mais vraiment une espèce de conjonction, d'alignement des planètes où d'un seul coup, tout faisait envie. Quoi. On avait envie de retourner au cinéma, on avait envie de revoir ça. Et avec effectivement au milieu Oppenheimer, qui est à la fois le film le plus classique et le plus expérimental de Nolan, qui est un film qui a très bavard malgré tout,
c'est ça, très curieux, dans
extraordinairement,
le succès
c'est ça, extraordinairement complexe,
et avec un montage quand même assez saccadé, quoi, entre les passages en noir et blanc, en couleur, le passé, le présent,
et qui montre que voilà, je pense que le public a envie de ça, et non seulement le public a envie de ça, c'est-à-dire de qu'on lui propose des films audacieux et qu'il bouscule un peu, et puis je pense aussi que Nolan, on le sait depuis on va dire Inception, même un peu avant, mais c'est quelqu'un qui murmure à l'oreille de l'époque, quoi, qui a compris ce que les gens attendent et qui fait les films que les gens attendent, quoi. Et c'est fou de voir ça, quoi.
Nolan qui a fait une super déclaration dans son discours aux Oscars, je crois, où il dit que bien sûr, mais alors ça malheureusement ils avaient coupé le micro. Ça c'est ce qu'on a pu voir sur ses lèvres une fois que voilà, la musique était déjà partie. Non, c'est quand il dit qu'on en est seulement à presque 100 ans de l'histoire du cinéma, et que si on pouvait s'imaginer être à 100 ans après la création des premières peintures, des premières sculptures, du théâtre, c'est quand même dans un art très très jeune, et c'est vrai qu'on est en capacité aujourd'hui de faire des films et de voir des films sur grand écran aussi extraordinaires que Oppenheimer, Babylone, Avatar et j'en passe, et c'est fantastique, et de voir ce réalisateur primé, donc meilleur film et meilleure réalisation, deux Oscars parce qu'il a produit également Oppenheimer, en plus de le réaliser, pour cet événement de l'année dernière. Barbie était aussi le grand événement, parce que les deux films étaient quasiment sortis en même temps. Ils étaient sortis
le même jour.
Merci de me reprendre, Robin, pour ce point bonus. Tu n'auras pas de balle sarbacane dans les 5 prochaines secondes. Alors, on termine ce petit tour d'horizon par un film un petit peu plus récent qui devrait être assez simple à trouver pour tout le monde. Je vous laisse écouter.
Ah, c'est Dune, ça.
Dune, deuxième partie.
Oui. C'est une très bonne réponse, Lisa. Bravo. Dune, deuxième
thème
partie.
Aussi.
Je vais le laisser.
Je l'écoute en boucle, hein, depuis la sortie.
Mais pareil.
Ah, moi, je pense que dans mon récap de la fin d'année, Hans Zimmer sera très, très haut dans l'artiste le plus écouté. Hans Zimmer, qui compose la bande originale de Dune, deuxième partie, Kiss the Ring. C'est le morceau qu'on est en train d'écouter avec ce thème.
Incroyable thème. Et surtout, incroyable talent dans Zimmer d'arriver à se renouveler entre les deux films et de proposer quelque chose de totalement symphonique.
Il y a quelque chose d'extraordinaire avec Hans Zimmer, en particulier sur ce film et sur ce qu'il a créé pour le premier Dune comme pour le second. C'est sa capacité à créer des instruments, à utiliser des instruments totalement inédits ou alors totalement oubliés et à les mettre au profit de son histoire. Il aurait pu très bien reprendre juste les grands thèmes du premier film, qui étaient tout aussi marquant. Là, dans ce deuxième opus, Kiss the Ring est la quintessence du thème. Il revient tout au long du film, puisque le premier thème du film, qui est, si je ne dis pas de bêtises, Beginnings are such delicate times, est un thème beaucoup plus long, parce qu'il dure près de 9 minutes. Kiss the Ring est un peu plus court, il est à 3 minutes. Mais c'est le thème qui va revenir à chaque fois qu'on voit les personnages de Shani et de Paul.
Qui est très associé à leur relation.
Et forcément, quand on connaît la fin de Dune, deuxième partie, ce thème a une puissance folle pendant le générique de fin.
En plus, il le fait monter, même avant le générique. Lors de la fin du film,
quand on voit Shani partir et que de l'autre côté on a Paul, et c'est sbire. Bref, un thème merveilleux, une bande originale absolument folle, et ça fait longtemps que Robin n'a pas eu de Tarbacane. Et un film pas mal, tout à fait.
Accessoirement.
Un film absolument magistral. On lui souhaite une belle carrière aux Oscars.
C'est parti, là.
Non, mais aux Oscars de l'année prochaine. Okay. On aimerait bien un petit big sweep d'une deuxième partie à la prochaine cérémonie. Mais bon, Le film fait beaucoup d'entrées, le film plaît énormément. Donc très impatient de voir ce qui suivra. C'est la fin de ce blind test. 7 morceaux trouvés, 7 morceaux, 7 films qui ont parsemé les différents épisodes de Séance Tenante depuis le début du format. Et je vous propose, on en parlait.
Il manque le règne animal et Justine Triet.
Et Anatomie d'une chute. Voilà.
Je suis d'accord. Et West Side Story aussi.
Pourquoi je me complique à trouver des extraits
Pourquoi tu m'envoies que des boules sur moi?
Là, je te l'accorde.
Est-ce que là, ça méritait pas?
Là, je te l'accorde.
Là,
je pourrais en effet avoir deux Sarbacane et faire à droite et à gauche, en effet. Mais attention quand même, parce que là, ce que vous venez de faire, c'est le premier avertissement. Mais en tout cas, on risque pas de se faire strike avec ce que vous venez de nous proposer.
Est-ce qu'on va reconnaître déjà ce qu'on a essayé de chanter?
j'ai pas reconnu. C'était la musique d'Anatomie d'une chute?
Bah oui. Oui, tu sais le remix.
Oui, je te remercie.
Tu veux que je le refasse?
Bon, en vrai, je pense que je pourrais retourner écouter l'épisode, juste l'extrait où tu le fais, et j'en fais une version.
Ça remonte le moral en plus.
Clairement. On en parlait en tout début d'épisode. Revenons maintenant sur quelques-uns des films les plus marquants de vos vies. Voilà, on va se poser, on va s'allonger un petit peu. Et donc oui, l'idée, c'est de revenir sur des grands films qui ont marqué les membres de l'équipe autour de la table et d'en discuter un petit peu, discuter du réalisateur, de ses talents, du genre en lui-même, de l'époque, que sais-je. Gaël, tu voulais commencer. Est-ce que c'est un genre, un film, un réalisateur?
C'est tout ça. C'est tout ça. Je sais pas pourquoi je ris bêtement d'ailleurs, mais.
Mais parce qu'il y a une bonne ambiance de fou. Attends, je peux mettre un chapeau si tu veux. Regarde, j'ai un chapeau sur la tête.
Pas mal. Du coup, je vais avoir du mal à me concentrer.
Par contre, il est pas accroché, donc il va tomber, donc je l'enlève.
Moi, c'est Eastwood. Voilà, Clint Eastwood. C'est un terrain, une espèce de continent du cinéma américain. C'est lui qui m'a vraiment fait aimer le cinéma, qui m'a fait comprendre en fait ce qu'était un réalisateur. À la fois parce que il développait très vite, j'ai compris qu'il développait des thèmes dans tous ses films, que ces thèmes, il les travaillait, il en jouait, il les reconstruisait au fil de sa carrière et j'ai commencé en fait à être en admiration d'Eastwood pour ce qu'il était, c'est-à-dire un acteur que je trouvais et que je trouve encore charismatique.
Tu te souviens de ta première rencontre avec lui?
Alors le terme rencontre est intéressant. Je me souviens vraiment. Je me souviens de plusieurs moments. C'est pour ça que c'est vraiment quelqu'un d'important pour moi. Enfin, en tout cas, en tant que cinéphile, je me souviens de découvrir ces films à la télé. Je me souviens très fortement de découvrir Le Bon, la Brute et le Truand et de me dire que j'aime le film et que j'aime ce type, hein, avec le poncho. Avec, je me souviens découvrir L'Épreuve de Force. Je dois avoir 14 ou 15 ans et je vois ce film au cinéma et la première scène, c'est un film absolument génial parce que c'est une espèce de road trip donc où il est avec sa femme de l'époque, Sandra Locke, et lui fait un flic un peu nul, un peu cabossé, un peu minable, et elle est une prostituée qui va en fait tenir le crachoir.
On en avait parlé, je crois,
de ce film. Ouais, c'est vraiment un film qui m'a marqué, et notamment pour la scène de début où on voyait la botte d'Eastwood frapper le bitume, une voiture s'arrête, une portière s'ouvre, et on voit une botte, et on sait que c'est Eastwood. Et sauf que derrière, il y a une canette, il y a une espèce de bouteille d'alcool qui tombe, et on comprend en fait qu'il est en train de casser le rôle qui s'est construit de héros indestructible. Et donc ça m'avait vraiment très impressionné. C'est un film que je revois assez régulièrement parce que c'est un film génial. Et puis après, il y a eu Impitoyable, il y a eu Honky Tonk Man, qui est un autre film que j'ai adoré. Il y a eu Impitoyable où là, d'un seul coup, il enterrait le western.
Mais c'est ça qui est assez fou, parce qu'on le connaît principalement au début de sa carrière pour des westerns.
Ouais.
On arrive dans les années 90, il y a Impitoyable,
ouais, qui est un film
qu'il réalise lui-même, il réinvente son propre genre et son propre mythe.
Exactement, ouais.
Dans aussi.
Et il rend hommage à tous les cinéastes, puisque le film est dédié à Léon et Siegel. Et il rend hommage aussi aux grands cinéastes qui l'ont lancé, qui l'ont façonné, en fait. Et en même temps, il enterre le western, qui est un genre qui, à l'époque, est en train de mourir, même s'il y a des comètes comme ça, dont Kevin Costner, qui est pas pareil.
Wild West avec Will Smith, par exemple.
Je pensais plutôt à Open Range, un peu plus tard, mais moi j'aime bien Wild West.
Moi aussi, j'ai beaucoup de sympathie pour ce film.
Et donc Eastwood, c'est ça, c'est vraiment un continent. C'est pour ça que je disais, c'est un continent de cinéma qu'on peut explorer, dont on voit les différents thèmes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les films dont il est l'acteur, les films qu'il réalise, les films de l'inspecteur Harry, le western, et à chaque fois c'est des galaxies différentes, et c'est un cinéaste. Voilà, qui pour moi est vraiment essentiel. Et je l'ai rencontré une fois,
pour le flex.
Juste pour le flex, j'avais été, j'attendais, je faisais un junket avec les acteurs japonais de Iwo Jima, et je l'ai vu apparaître au fond du couloir, et je me suis dit, ok, il faut que j'aille lui dire. Et je me suis levé et j'ai balbutié. Je lui ai dit, ah vraiment, vous ne savez pas à quel point vous comptez, à quel point votre cinéma m'a complètement bouleversé, me bouleverse encore. Bon, en fait, j'ai dû dire un truc genre, hello, I knew, know you, why do you thank you? Et je suis parti, mais je lui ai serré la main. Et ça, vraiment, je voyais cette espèce de grande carcasse. Enfin, franchement, c'était un des plus grands moments de ma vie, quoi. Tout bêtement.
Il a répondu quoi ?
Thank you.
Oh, thank you.
Thank you. Je n'ai rien à carrer. J'ai rien compris à ce que tu dis.
Avec l'accent du midi, bien sûr, il préparait un rôle qui ne s'est jamais fait. Si tu devais garder un film de Clint Eastwood, ça serait celui que tu nous as cité tout à l'heure.
Ouais, L'Épreuve de Force, parce que c'est vraiment D'abord, c'est un film qui n'est pas très connu, et puis c'est un film qui est très, très cool à voir, avec notamment l'attaque du bus à la fin. Un bus qui fonce dans parmi les flics. Enfin, c'est vraiment génial.
Et ce qui est intéressant aussi avec Eastwood, c'est que c'est un réalisateur qui aime se faire jouer aussi de temps en temps, enfin de temps en temps beaucoup, mais c'est un acteur, un réalisateur qui sait aussi se cacher juste derrière la caméra. Moi je pense à Mystic River, qui est un film formidable, ou même Sully par exemple, qui avait marqué les esprits avec Tom Hanks il n'y a pas très longtemps. Vous, il y a un film, Robin, Lisa, d'Eastwood qui vous marque en particulier?
Moi ce serait, je pense, Million Dollar Baby. Je pense que c'est ça. Je pense que ça a été le premier Eastwood réalisateur et acteur en final que je vois au cinéma à l'époque, et ouais, grosse claque.
Moi, ça reste Mystic River, dont tu as parlé tout à l'heure, qui était aussi un peu un... Je l'ai vu plus tard. Il y avait vraiment cette sensation d'assister à un mélange de genres et de rencontres entre des acteurs et justement un réalisateur qui avait cette stature particulière, où on sentait qu'on n'était pas face à un film quelconque. Et ça, c'est, et même par rapport au thème du sujet, à toute sa construction, et ça, c'est quelque chose qui reste, même plus que le film encore, le ressenti derrière à la fin en ayant fini.
Mais c'est vrai que c'est un réalisateur qui sait se cacher quand même, parce que quand tu prends même American Sniper avec Bradley Cooper, que tu parles du Mystic River aussi, c'est, tu vois, c'est des films, alors peut-être plus Mystic River parce que American Sniper, je savais que c'était lui, mais je pense que, tu vois, Mystic River, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah mais c'est Eastwood en fait qui a réalisé ça. Tu vois, j'avais plus la figure de Sean Penn, ce genre de choses. Je trouve ça, c'est vrai que c'est assez intéressant le fait qu'il arrive à se cacher derrière ses certains thèmes ou certains genres en fait de cinéma.
American Sniper, il y a ce côté en plus patriotique qui rajoute vachement au personnage qui est moins présent dans Mystic River, avec un Kevin Bacon fantastique, avec un Tim Robbins aussi formidable et un Sean Penn extraordinaire également. Merci Gaël. Clint Eastwood, on s'est noté, donc tu recommandes Clint Eastwood. Hein.
Ah ouais.
Je me le note.
Ah, c'est mal, courir.
Pas mal. Petit cinéaste qui va monter.
À explorer. Lisa Robin.
Alors, si on est sur les artistes,
un film en particulier, un genre. Tu fais ce que tu veux.
C'est peut-être pas très original, mais moi, c'est Tarantino qui m'a, je pense, le plus marqué dans ma toute petite vie de cinéphile encore. Non, c'est vraiment un genre. En fait, ce que j'aime avec Tarantino, on parlait des galaxies de cinéma, c'est que lui, c'est s'en approprier 1 milliard par film, en fait, et qui va explorer un peu tous les genres. J'aime sa violence, j'aime le spécial cinglant, j'aime son écriture, j'aime le rythme de ses films, j'aime ses personnages. Évidemment, je pense que la première entrée que j'ai eue avec lui, c'est forcément Pulp Fiction, parce que t'as ce truc de... c'est sûrement son chef-d'œuvre, et encore que je pourrais beaucoup débattre de ça, parce que j'ai pris une grosse claque dans Inglourious Basterds aussi. Je trouve qu'il va vers du western, il va vers du film de mafieux. Il a des personnages féminins qui sont très forts, qui sont très bien écrits. Enfin, quand on a les 2 volumes de Kill Bill, que citer d'autres comme exemple. J'ai beaucoup, beaucoup d'affection, même pour son dernier, même pour ses 2 derniers qui ont peut-être eu un peu... qui ont peut-être, on va dire, essuyé des critiques plus... mitigé, on va dire. Et en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui a une grande connaissance du cinéma des années 70. En même temps, il s'en est jamais caché. Il a toujours dit, il a même écrit son dernier bouquin, c'est là-dessus. Donc voilà, ça serait, je pense, le cinéma tarantinesque et Tarantino. Comment, en plus, il arrive aussi, je trouve, à constituer ses castings, à redonner vie à des acteurs qui étaient complètement... considéré comme ringard. Je pense à Travolta pour Pulp Fiction, par exemple. Même Bruce Willis, il lui offre un rôle hyper intéressant là-dedans. C'est vrai. Il y a une palme d'or quand même pour Pulp Fiction. Faut peut-être pas le... C'est quand même son, j'ai envie de dire, 2e film, 3e peut-être, à l'époque. Enfin, c'est pas rien quand t'en as à peine à ton 3e, t'as déjà une palme d'or. Donc voilà, je pense que ça peut des fois être, comment dire, je comprendrais que certaines personnes n'aiment pas le cinéma de Tarantino et je comprendrais pourquoi. Mais il y a quelque chose de très rock qui m'attire directement chez lui. Il y a une photographie, une mise en scène toujours incroyable. Et alors peut-être que voilà, je ne suis pas assez objective là-dessus, mais j'attends avec impatience le dernier.
The Movie Critic.
Qui sera tristement le dernier, hélas. Mais
Ils disent tout ça.
Oui. Ils disent tout ça.
Après, c'est vrai qu'il le dit depuis longtemps. Hein. Qu'il va faire 10 films et qu'il n'en fera plus d'autres.
Ouais, même la façon dont il compte, s'il est déjà au 10e ou pas, ça peut être très débattu aussi. Donc.
Ça dépend, c'est Kill Bill est un film ou
oui,
deux.
Oui, c'est ça. Le diptyque avec Rodriguez.
C'est ça, en plus, tu vois, c'est aussi cette collaboration-là. Je pense que ce que j'aime bien, il y a l'aspect un peu gore et en même temps, voilà. Et comment, en fait, il explore des cinémas et comment il arrive, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est, même s'il les explore, il pourrait, des fois, se casser les dents là-dessus. Et je trouve qu'il ne l'a jamais fait. Mais parce que je pense que c'est un réalisateur qui est très référencé et un cinéphile avant tout, en fait.
Un film de Tarantino, par personne. Gaël.
Moi, je dirais Pulp Fiction.
Vient de le dire aussi, on n'explore pas sa filmographie là.
Once Upon a Time aussi, mais j'allais raconter que j'adore Once Upon a Time, mais je trouve que il y a une extraordinaire virtuosité dans Pulp Fiction en termes de structure, en termes de d'écriture. En plus, c'est quand même un cinéaste qui va chercher des écrivains que j'aime bien, notamment, enfin, qui fait souvent référence à Elmore Leonard. Donc, en termes de dialogue, on est sur... C'est de la dentelle. Je voulais juste raconter que j'ai eu la chance de parler avec Gareth Edwards il y a quelques mois. Et quand on parlait, on en est venu, je ne sais pas pourquoi, à parler de Tarantino.
Créateur,
et il me disait,
de Rogue One, Godzilla.
Exactement. Et The Creator. Et il me racontait que dans l'avion qu'il avait pris pour venir en France, il s'était amusé à remonter Pulp Fiction dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est... Et il me dit, en fait, je le fais parce que j'adore le film, que je le vois constamment et que j'essaye de craquer le code, comme on dit. Et il dit, c'est incroyable. En fait, même quand tu le mets dans l'ordre, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on se dit tous que c'est parce que le film est éclaté que c'est vraiment bien. Mais en réalité, il y a un science. Il y a une science de la narration qui tient même quand tu déplies le film, quoi. C'est fou.
Robin, pour moi, ça serait le diptyque Kill Bill, je pense, que vraiment j'adore. Il y a cette ambiance du road trip avec un personnage qui a cette quête de vengeance, de road trip, et qui va toucher plein de genres, évidemment, du cinéma asiatique. J'ai encore la découverte ado, sans doute, des deux films. Et d'être marqué par des séquences, mais qui peuvent être toutes simples, sur elle qui essaye de sortir du cercueil, et ça t'envoie un flashback de 20 minutes où tu vois toute son apprentissage des arts martiaux. Enfin, il y a quelque chose, pareil, on parlait de la narration qui est dans Kill Bill, qui est incroyablement maîtrisée, et qui est aussi qui est jouissif dans son exécution totalement décomplexée de l'action et du sanglant, du gore. Voilà, donc Kill Bill, je pense, pour tout ce que ça raconte et ce côté de Tarantino qu'a le temps de poser parce qu'il a deux films et il va loin, il part de loin et il va loin.
Mais dans ce même esprit, alors j'allais dire de vengeance, moi, ce serait plutôt Inglourious Basterds. Parce qu'il y a cet esprit de mission et d'infiltration, de tout ça au milieu de la Seconde Guerre mondiale avec une galaxie de personnages monstrueuses. Christophe Waltz, Brad Pitt.
La scène d'ouverture.
La scène d'ouverture.
Avec Denis Ménochet.
Magistrale avec Mélanie Laurent. Et
le verre de lait.
Et le verre de lait. Et le verre de lait qu'on retrouve après quand il mange son Apple Strudel. Ouais. Avec Mélanie Laurent. Mais enfin, ouais. Et puis cette scène finale. Dans le cinéma absolument folle, il y a ce truc de jusqu'au boutisme de la réécriture de l'histoire que je trouve intéressant, de cette espèce de
continue dans Once Upon a Time d'ailleurs.
C'est ça, quelque chose qu'on lui avait déjà reproché quand même.
Oui, mais justement, je trouve que c'est intéressant dans un film comme Inglourious Basterds d'avoir cette espèce d'uchronie où on va partir, voilà, enfin l'uchronie pas vraiment puisque on découvre pas ce qui se passe après, mais en tout cas ce point de bascule.
Oui, on refait
l'histoire. Il l'avait fait en effet par la suite avec Once Upon a Time. Mais le casting d'Inglourious Basterds, cette couleur, cette énergie, cette violence aussi, mais qui est symptomatique du réalisateur, je la trouve absolument brillante. Et c'est pour ça que je crois que c'est un de mes films préférés du metteur en scène.
Ouais. Ça dit quelque chose de tu parles de l'uchronie, je trouve que ça dit aussi quelque chose de ce qu'il pense du cinéma, en tout cas de la fonction qu'il lui assigne, c'est-à-dire quelque chose qui est plus grand, plus fort que la vie, en fait. Ouais. Et c'est ce qui, moi, m'émeut aussi dans Once Upon a Time, c'est-à-dire cette idée de faire vivre ce personnage qui doit mourir et qui est, voilà, qui lui redonner vie parce qu'il l'a tellement aimé, qu'il l'aime tellement qu'il veut faire en sorte qu'elle continue d'exister, quoi. Je trouve qu'il y a une croyance dans le cinéma, dans le pouvoir de l'image qui est vraiment très émouvant.
Puis dans le pouvoir de l'image, lui, comme il l'a perçu quand il était enfant, pour avoir été à la... il venait présenter son livre à Paris il y a un an à peu près. Et justement, quand il te référence, en fait, quand il te liste toutes ces références, c'est que des choses infusées de son enfance aussi. Et donc, comment, en fait, le cinéma l'a complètement changé ou métamorphosé dès le plus jeune âge, en fait. Et c'est hyper passionnant. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être tous en commun, en fait. En tant que cinéphile. C'est qu'à un moment, t'as vu un film, t'as au bon moment, dans la bonne salle, j'en sais rien, et t'es complètement imbibé de ça, en fait.
Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Robin Nègre.
Alors...
Dracula.
Là, moi, j'hésitais. Est-ce que je pars sur la trilogie du Seigneur des Anneaux?
Mais oui, ma passion, évidemment.
Mais non, en fait, je pensais à... pareil, vu qu'on parle un peu des cinéastes, des films qui ont marqué à la bonne époque et au bon moment... moi, c'est très paradoxal parce qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément le même discours dessus. C'est Tim Burton.
Ah ouais.
C'est l'époque Sleepy Hollow, c'est découvrir Edward aux mains d'argent, c'est voir ensuite Sweeney Todd, Big Fish, rattraper les Batman, découvrir Charlie et la chocolaterie. C'est un peu le réalisateur qui m'a apporté le plus vite et le plus l'amour du gothisme que j'ai pu très vite développer, aimer, et le sens du merveilleux, de l'image, de... Alors, tu parlais de Dracula, il y a aussi cette façon de venir convoquer les anciens monstres, tout cet imaginaire qu'il arrive à développer, à s'approprier et à rendre, que je trouve fabuleux. Et Tim Burton, qui est quand même un cinéaste assez fascinant pour ça, il y a plusieurs Tim Burton, quoi. Et je pense que même autour de la table, on n'a peut-être pas du tout le même Tim Burton en tête quand on pense à celui qu'on aime, à celui qu'on n'aime pas. Et parce que je pense qu'à partir d'une certaine période, il a plus réussi à trouver... voilà. Je pense à Dark Shadows, que j'aime pas du tout, par exemple, mais je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup.
Ah bon ?
Bah ouais.
Qui sont-ils ?
Écoute, on pourra les inviter.
Mais invitons-les. Il n'y a pas besoin de beaucoup de chaises, hein, donc, mais ok.
Là, je trouve que ça va un petit peu mieux. Je suis quand même curieux de voir Beetlejuice. Alors, est-ce que c'est le titre officiel
Beetlejuice ou...
Sur l'affiche, il y a marqué ça.
La répétition.
Le jeu de mots, c'est ça. Au lieu de Beetlejuice 2, de... comme dans le premier
j'ai
film.
J'ai la ref.
Ah, voilà, très bien. J'étais parti pour l'expliquer aussi. Donc voilà, est-ce que ce Tim Burton que j'aimais au début va revenir ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ado, quand je découvre le cinéma, quand je m'y intéresse... tomber sur Sleepy Hollow, c'est vraiment voir un autre monde qu'on peut voir qu'au cinéma. Quoi. Voilà.
Tim Burton, de votre côté, Lisa, Gaëlle.
Oui, Sleepy Hollow, c'est bien. Non.
Moi, j'aime beaucoup Sleepy Hollow et Sweeney Todd.
Ouais, moi, Sweeney Todd,
j'aime beaucoup
Big
Fish.
Cette ambiance gothique et sombre, avec un Johnny Depp absolument
incroyable.
Magistral dans les deux cas. Enfin...
Non, moi, je dirais Big Fish, je pense.
Ouais.
Ouais, Ewan McGregor déjà. Voilà.
Beaucoup et plus lumineux comme film.
Ouais, plus poétique. Ouais. Plus,
enfin, plus...
Non pas que les Tim Burton ne soient pas poétiques dans avec tout ce que ça dit, par exemple, les doigts aux mains d'argent. Et,
bien sûr,
ça aussi c'est lumineux.
Tu citais aussi justement l'enfance, tout ça, tout ce qui convoque, je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est vrai que, Big Fish a est lumineux, mais une mélancolie derrière. Moi, quoi que, en même temps, quand tu repenses aussi à les doigts aux mains d'argent, il y a ça.
Mais attends, t'as le droit d'aimer deux films, hein.
Non, mais j'aime les deux films. Mais je pense que, gros coup de cœur pour Big Fish, en fait. Sur toute la traversée de ce personnage, en fait.
Gaëlle, toi, c'est la planète des singes.
Je vais faire la blague tout à l'heure.
Je l'avais oublié, pour tout vous dire. Je parle Tim Burton et j'avais oublié.
J'allais dire...
occulté expressément.
L'étrange Noël, mais en fait, c'est pas vraiment lui.
Ah,
enfin, donc, voilà.
Malgré
mais
son titre, Tim Burton's...
Non, je Ed Wood, moi. Ed Wood, ouais. et tu vois, on parlait de ça tout à l'heure, c'est encore une fois un hommage au cinéma, quoi. Mmh. Et aussi dans le pouvoir de des images. Puis je trouve que le script est merveilleux, la photo est extraordinaire. Je pense que c'est un des plus grands rôles de Johnny Depp. Et je trouve que c'est vraiment un film remarquable, ça.
Et puisque tout le monde me pose la question.
Toi, ouais.
Mais ouais, merci. Non, c'est top. Donc, on parlait de Clint Eastwood, on parlait de Quentin Tarantino, Tim Burton. Moi, ça serait Steven Spielberg. C'est pas très original, je vous l'accorde. Mais pourquoi Spielberg ? Spielberg, pour deux raisons. D'une part, pour sa casquette de réalisateur, et puis surtout celle aussi, j'allais dire surtout celle de producteur, celle de réalisateur, parce qu'avec. Avec George Lucas, avec Ridley Scott, ils ont inventé le blockbuster moderne dans les années 70, avec que ce soit Les Dents de la Mer ou ensuite E.T. Et Les Aventures de l'Arche Perdue et j'en passe. Mais il y a quand même, quand on regarde les premiers films de sa filmographie, justement, Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type, E.T. l'Extraterrestre, Les Aventures de l'Arche Perdue, ne serait-ce que sur ces quatre films, on est quand même sur quatre films. Enfin, encore, la liste est longue, mais sur des chefs-d'œuvre absolus du cinéma qui ont marqué l'imaginaire collectif et l'inconscient collectif avec ce qui est devenu aujourd'hui des franchises, ou à l'époque, ce qui était des franchises, des Dents de la Mer, il y a eu je ne sais pas combien de films là-dessus, mais il y a une capacité de Spielberg, je trouve, à toucher chez le public, chez des générations entières, dans le monde entier, quelque chose d'absolument fantastique, que ce soit en rapport à l'enfance, que ce soit en référence à l'imaginaire, à la découverte, à l'aventure, qui est absolument fou. Les Dents de la Mer, c'est un film terrifiant. E.T., il enchaîne derrière avec Rencontre du Troisième Type, qui est un film de science-fiction magistral, avec cette découverte folle d'extraterrestres qui débarquent sur Terre, et avec un François Truffaut en plus au milieu de tout ça, et derrière il y a E.T. Et tout au long de sa carrière, je trouve que c'est sa capacité à jongler d'un genre à l'autre, quand il réalise officieusement Poltergeist, pas très loin derrière, et qu'après il va enchaîner dans les années 80 toute une série de grands classiques du cinéma avant de se réinventer encore une fois dans les années 90, au début des années 90, et dire attendez, vous vous rappelez que je suis aussi le plus grand réalisateur de l'histoire du cinéma, et qu'il sort en même temps Jurassic Park et La Liste de Schindler. avant de continuer les années 90 folles, des années 2000 magistrales, avec, avec des films beaucoup plus petits. On pense à Arrête-moi si tu peux, au Terminal. Et à chaque fois, il va s'emparer d'acteurs, d'actrices. Le Pont des Espions, formidable. Et puis surtout, cette capacité à jongler d'un projet à l'autre. Je mentionnais Jurassic Park et, et les Schindler. Quand il fait Tintin, Cheval de Guerre, qui sortent littéralement le même jour aux États-Unis, qui sortent exactement au même moment, il y a quand même un truc absolument extraordinaire chez lui. Moi, j'aime beaucoup Cheval de Guerre. On va pas repartir dans ce débat-là.
On était déjà sur ce débat-là.
Mais forcément, c'est impensif de dire que Spielberg est un des plus grands, si ce n'est le plus grand. Mais il y a aussi cette capacité de metteur en scène à produire chez lui, chez Amblim, sa boîte de production dans les années 80, dans les années 80 et 90, de refondre quasiment Hollywood. Quand il produit Retour vers le futur de Zemeckis, il va produire une trilogie qui est une des trilogies les plus cultes de l'histoire du cinéma. Quand il va produire les Goonies, quand il va créer ensuite DreamWorks à la fin des années 90 avec plus ou moins de succès sur la partie live, quoi qu'il en reste, il reste DreamWorks Animation. Il y a un travail de... Il va produire Transformers. On pense qu'on veut de Transformers, mais c'est quand même une des plus grosses franchises de l'histoire du cinéma. C'est du cinéma d'auteur, c'est Michael Bay.
C'est vrai.
Moi, j'aime beaucoup. Moi aussi. Mais il y a quelque chose, je trouve, de fabuleux. Et puis, à l'âge où il est dans sa vie... de réaliser que ça soit West Side Story on a l'impression que c'est fait par un jeune plein d'énergie d'une vingtaine d'années qui va revitaliser ce truc qu'on a l'impression de connaître par cœur, qui fait The Fabelmans, et que derrière il va produire Maestro pour Bradley Cooper et en même temps préparer la suite. Il a quand même réalisé Ready Player One il y a pas très longtemps, qui est le blockbuster ultime
de
la pop culture, qui est d'une niaiserie sans faille mais que j'adore éperdument, parce
mais
que vraiment, pour l'avoir revu il y a pas très longtemps, c'est d'un niais incroyable, mais en même temps on est face à un objet de cinéma que je trouve absolument fou. Et c'est pour ça que Spielberg, je trouve, est moi un réalisateur et un producteur, un homme de cinéma au sens très large, et une figure absolument incontournable. Mais bon, c'est pas très original de dire ça, mais je disais ça parce que justement il y a cette casquette de producteur et de metteur en scène qui est complémentaire, mais qui en même temps a permis d'avoir des chefs-d'œuvre absolus, que ce soit ceux qu'il a pu réaliser ou des Retours à le futur et j'en passe. Vous, Spielberg, quand on vous donne ce nom-là, il y a un film qui apparaît immédiatement?
Il y en a tous. Je sais pas. Moi, je dirais Munich. Je dirais La Liste de Schindler parce que je l'ai revu il y a pas très longtemps. Mais je crois que bizarrement, c'est Duel. Moi.
Duel, ouais. Ouais, j'ai pas cité son premier téléfilm sorti ensuite au cinéma.
C'est un film. C'est un chef-d'œuvre de montage et de mise en scène, quoi.
Et de simplicité
et
sur le papier,
incroyable.
Robin, bizarre.
Alors, quand parle de Spielberg, je pense surtout effectivement à la période 80-70, mais pourtant le film qui me vient le plus en tête, c'est La Guerre des Mondes. Parce que c'est aussi une découverte ado en salle, peut-être un des premiers Spielberg du coup que je voyais en salle, mais qui était absolument marquant et terrifiant même dans la façon de... J'en ai fait des cauchemars jeunes de me dire « Ah mais les aliens, c'est ça en fait, on sait pas ce que c'est ». Enfin...
Et quand il enchaîne ça et Minority Report,
ah oui,
un truc
aussi,
quand même
effectivement,
de science-fiction qui est
et puis
absolument
avec le sacré Tom Cruise à nouveau, un duo Tom Cruise. Donc ouais, La Guerre des Mondes, qui est vraiment un film marquant dans toute sa direction artistique. Je crois qu'on en avait déjà parlé, la façon dont il met en scène le sang
et
les marques de sang à travers le champ, tout ce côté
macabre
et surtout l'effondrement de la société, incroyable. Incroyable.
Lisa.
Moi, je pense que j'en ai deux, mais qui sont quand même diamétralement bien opposés, parce que le premier, ça serait Les Dents de la Mer, pour, on va dire, le trauma générationnel qu'il a causé. Et ce que tu disais, justement, sur la Guerre des Mondes, la manière de ne pas montrer les aliens et montrer la violence d'une autre manière, et comment, en fait, avec Les Dents de la Mer, on ne voit jamais le requin avant, peut-être, on va dire, les 20 dernières minutes, 30 dernières minutes, et comment, par des mouvements de caméra, tu arrives à instiguer dans l'imaginaire collectif ce monstre marin complètement terrifiant, et West Side Story, en fait, parce que... je pense que je me suis replongée dans la comédie musicale et dans l'univers de la comédie musicale originale grâce à Spielberg et comment, en fait, il arrive en même temps à être un homme de cinéma en rendant hommage au plus grand chef-d'œuvre du cinéma et en même temps à réinjecter une modernité qui, par son âge, quand même, ne devrait peut-être plus être là. C'est pas vrai, mais...
Regarde Scorsese et le Loup de Wall Street.
C'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, c'est un autre Scorsese, c'est exactement ça. Et voilà, donc du coup, et voilà, et en même temps, ces deux films témoignent pour moi de comment en fait il arrive à s'adapter à plein de genres de cinéma, encore une fois.
Spielberg, Scorsese, pas du tout, on n'a pas parlé de Scorsese, Eastwood, pardon, Tarantino, Tim Burton, de grands réalisateurs anglo-saxons. On était très anglo-saxons aujourd'hui. Pour une question de quota, on reviendra prochainement sur des réalisateurs et réalisatrices français et françaises. Ou d'ailleurs, un dernier mot pour finir, les plus grandes attentes. Est-ce que chacun a un ou deux films comme ça qui l'attend éperdument sur les mois, années à venir ? Lisa ?
Bah, tu citais réalisateur ou réalisatrice française. Moi, c'est L'Amour Ouf. C'est vrai qu'on en a quand même pas mal parlé ici, mais plus j'entends des choses autour du film, plus j'ai vraiment hâte de découvrir ce... un peu cette alien du cinéma français.
Le
parce
prochain
que...
film de Gilles Lelouch, avec Alex Zarkopoulos et François Civil, entre autres.
Mais en même temps, on te dit que c'est une comédie musicale, on parle de West Side Story, on te dit qu'il y a du Tarantino dedans, je suis la plus fanzouze, voilà. Vraiment hâte de savoir comment il a mélangé les styles et de voir l'envergure que ça va donner au cinéma français aussi.
Robin ?
On en avait déjà parlé, mais Furiosa, là, bientôt, qui arrive dans pas si longtemps. On parlait à nouveau des cinéastes qui arrivent à se réinventer à un âge où ils ne devraient pas être capables de faire ça. Je pense que George Miller, qui arrive il y a 5 ans avec Fury Road, c'est un bon exemple. Est-ce qu'il va à nouveau faire pareil avec Furiosa ? J'espère.
Gaël ?
Voilà mon truc. Non, mais alors moi, il y a le film de Paolo Sorrentino,
comme d'habitude.
Voilà. Dès qu'il y a Sorrentino, tu vois, toi, t'es la fanzouze de Tarantino. Moi, je suis le fanzouze de Sorrentino. Donc, voilà, j'attends de voir un projet un peu secret. On sait que c'est napolitain. On sait que donc ce sera italien. Je ne sais même pas si le génial Tony Servillo est dans le coup, mais c'est vraiment un des films que j'attends le plus, ouais.
Et toi, Alexis ?
Oui, c'est vrai, Alexis.
Oh là là, mais on se pose toute cette question. Ouais, Avatar 5. Avatar 5, Avatar 3.
Wow. Enfin, il attend 5 aussi, je crois.
L'épisode 2000. Trop impatient, quoi.
L'épisode 2000. Sans surprise, Avatar 3, on est revenu largement là-dessus sur l'immersion que nous avait offert le précédent opus. Avatar 3.
Mais tu ouvres 2025, en fait.
Moi, j'ouvre 2025.
Ah bah alors, j'aurais dit le Messie de Dune, alors.
Oui, mais t'as tout à fait le droit de dire voilà. Messie de Dune. C'est pour ça que j'ai dit dans les mois à venir ou les années à venir.
Bien joué.
Mais voilà, vu l'immersion que nous avait proposé le réalisateur sur le dernier film, on peut être que impatient. Surtout que visiblement, il y a cette optique de presque d'aller chercher un élément différent à chaque fois. Le premier, c'était la terre. Le deuxième, c'était l'eau. Peut-être que le feu, a priori, devrait être le troisième. Ou l'air, peut-être. Bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, très impatient de découvrir ce qui nous réserve. Sachant qu'il y a le 4 qui est déjà prévu derrière, un 5 et peut-être même encore plus, avec ou sans lui d'ailleurs.
Il y a aussi Mégalopolis, Coppola.
Mégalopolis.
Qu'on attend plus, je sais pas.
Qu'on n'attend pas.
Je suis pas confiante, mais je suis curieuse de savoir ce que ça va donner. En parlant curieux, de cinéaste,
on peut avoir de la curiosité, parce qu'il y a de la curiosité très mal placée. Mais...
Non, Gaël, on a vu les trois.
Non, j'ai rien vu.
La grosse balle perdue.
Tout un programme. En tout cas, merci de nous avoir teasé ce Mégalopolis et ce retour de Coppola au cinéma. Il l'a vu en entier.
Mais
il a ses entrées à Hollywood.
Il a rencontré Clint Eastwood quand même.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour de la table pour ce 100e épisode.
Bon anniversaire.
Ah, c'est pas vraiment un anniversaire, mais c'est sympa quand même.
Pas d'anniversaire alors.
Si, c'est un anniversaire. Bon, c'est en mai. Pour les 2 ans.
Ah voilà.
Allez, voilà.
Rendez-vous
dans 2 mois. D'ici là, continuez bien sûr à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute et à mettre des avis positifs si vous le pouvez. Ça aide bien entendu beaucoup la mise en avant du podcast sur les différentes plateformes. Merci beaucoup Lisa.
Oui, merci à vous.
Merci Robin.
Merci beaucoup.
Et merci Gaël.
Merci.
Désolé Robin de t'avoir bien sûr visé à de multiples reprises avec
la
charge de revanche, mais bien sûr, tu me devais bien ça. Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le 101e épisode de Séance Tenante. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.